Nous voici en cette quatrième rencontre au sujet du message de Lourdes. Alors qu'en ce jour, mercredi décembre, nous allons rentrer avec toute l'Église dans la quarantaine, nous ouvrant aux fêtes de Pâques, où nous allons suivre le Seigneur de la mort à la vie, revenons au moment des apparitions, après la troisième apparition, le 18 février, voilà que, avec toute l'Église, nous rentrons dans le temps du carême. Entre la proclamation de la Conception Immaculée de la Vierge Marie le 8 décembre 1854 et le commencement des apparitions le 11 février, voilà que 3 ans et 3 mois se sont passés, pendant lesquels celle qui va être appelée à la pénitence, à la prière pour la conversion des pécheurs, à aller à la source, boire et se laver, Sainte Bernadette, eh bien, va vivre un dépouillement intérieur pendant les apparitions, mais également un dépouillement matériel. À partir du mois de juin 1854, voilà que la famille Soubirous tombe dans la pauvreté jusqu'à atteindre la misère. C'est la première pauvreté de Bernadette, celle qui fait qu'elle est comme émondée maison après maison, et voilà qu'elle atteint la misère lorsqu'elle arrive au cachot. C'est la première pauvreté de Bernadette, une pauvreté matérielle qui tient à la situation de sa famille. La seconde pauvreté de Bernadette, c'est sa mauvaise santé. Une mauvaise santé, lorsqu'elle a été enfant, elle a eu le choléra, elle en gardera des traces toute sa vie, d'une mauvaise digestion également. Elle a ses gros problèmes de respiration, ses problèmes d'asthme, et l'insalubrité du cachot n'aide pas la situation, même si, sans être guéri, il y a comme un certain va-mieux, pourrions-nous dire, pendant les apparitions. La troisième pauvreté de Bernadette, c'est son ignorance. Bernadette n'est scolarisée que depuis le mois de janvier 1858. Nous voyons donc qu'à trois titres, Bernadette est pauvre matériellement, pauvre avec une mauvaise santé, et également parce qu'elle est ignorance. Et Saint Paul de nous dire, c'est repris par Monseigneur Laurence dans le Mandement, qui reconnaît les apparitions, ce qu'il y a de faible et de pauvre dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre la sagesse des puissants. Et bien voilà que la Vierge Immaculée, qui ne va avoir de cesse pendant ce temps du carême 1858, de préparer Bernadette aux fêtes de Pâques, de préparer Bernadette à sa première communion qu'elle fera le 3 juin 1858, voilà que Bernadette est choisie parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle est ignorante, et cette ignorance est une force pour la bienheureuse Vierge Marie, puisqu'on ne peut pas soupçonner bien longtemps que le message qu'elle délivre, qu'elle porte, viennent d'elle. Parce que la plupart du temps, Bernadette ne comprend pas quand le 25 mars, elle ira porter à Monsieur le curé le nom de la dame, « Que soyera Immaculada Conceptio ». Bernadette butera non seulement sur le mot « Conceptio » qu'elle prononcera « Conceptio », elle ne sait pas plus trop comment il faut le dire, on voit bien que tout cela ne peut pas venir d'elle. À cette pauvreté qui a été comme préparée 3 ans et 3 mois avant les apparitions, pauvreté donc matérielle, il va y avoir cette pauvreté spirituelle que va n'avoir de cesse de lui enseigner la dame, pauvreté spirituelle que l'on appelle l'humilité. Bernadette est humble. Comme la dame a été choisie, elle le reconnaît dans le Magnificat, le puissant s'est penché sur son humble servante. Saint et son nom, conclut-elle. Oui, Bernadette a donc été choisie en raison de sa pauvreté, et comme nous l'avons vu la semaine dernière, dans les déclarations de la dame, dans ses brèves paroles, il n'est jamais question de pauvreté. Pourtant, la pauvreté, elle est la toile de fond des apparitions. Tout le monde sait, en venant assister aux apparitions, que la petite Soubirous est une petite pauvre, une petite miséreuse. Et pourtant, non seulement c'est la toile de fond des apparitions, mais ça va être également la tonalité fondamentale du message de Lourdes, que d'appeler à cette pauvreté. Pauvreté qui ne sera pas que matérielle, mais qui est avant tout ce que nous appelons dans le carême, la conversion. La conversion, revenir vers Dieu de tout son cœur, c'est avant tout reconnaître, que l'on est pauvre, c'est laisser de côté notre orgueil, qui nous étouffe et qui nous encombre, pour revenir vers cette humilité. Je me reçois de Dieu, je viens de Dieu, je retourne à Dieu, je mets toute ma foi, mon espérance, ma confiance en Dieu, malgré les épreuves, malgré la situation de l'Église, malgré la situation du monde. Hein, c'est le psaume qui dit ça, « Je tiens mon âme égale et silencieuse, comme un petit enfant tout contre sa mère. » Bernadette n'est pas une revendicatrice de droits, elle n'est pas défenseuse des opprimés, elle n'est pas en train de dire « c'est une honte que je sois pauvre alors que certains sont riches », non. Bernadette, elle est humble et elle est dans une forme d'acceptation de la pauvreté. Cela ne veut pas dire que les soubirous ne se retroussent pas les manches pour travailler. Son père François n'a de cesse de trouver du travail, c'est ce qu'on appelle un journalier. Ça n'a aucun rapport avec le journalisme, mais cela veut dire, c'est la pauvreté de François, qu'il doit trouver un emploi au jour le jour. Parfois l'emploi va durer 2-3 jours, parfois ça sera le temps des moissons, il peut être embauché quelques semaines. Il en sera de même pour Louise, qui sera bien contente d'avoir 3 lessives de Madame Millet par semaine et de pouvoir ainsi travailler de ci, de là. Mais c'est une très grande pauvreté parce que voit Bernadette? Lorsque son père ne trouve pas de travail, il reste au lit, non pas qu'il est feignant, mais pour conserver le peu de force qu'il a, ils sont sous-alimentés, et pour pouvoir être en meilleure forme le lendemain et nourrir sa famille. Cette pauvreté va loin, et voilà que c'est dans cette pauvreté matérielle que va s'enraciner pour Bernadette eh bien, cette pauvreté spirituelle des apparitions. C'est le cas pour nous également dans le carême. Hein, la pauvreté que l'on est censé vivre en ce temps, plus particulièrement, hein, cette sorte de... comment dire, de s'enlever un peu des richesses, de notre confort, de nos habitudes, de nos gourmandises. Hein, ce sont des petites choses, mais qui sont là pour manifester au bon Dieu que notre vrai désir, hein, c'est un recentrement sur soi et donc un recentrement sur Dieu, notre véritable désir est bien de lui appartenir. La Vierge va donc faire vivre tout cela à Bernadette. Et le 11 février, tout a commencé par le signe de la croix, et c'est bien la plus grande des pauvretés. À la manière du monde, on aurait pu penser que le bon Dieu, dont nous reconnaissons en vérité qu'il est le Tout-Puissant dans le Credo, aurait manifesté en venant dans ce monde une force et sa puissance. Eh bien, ça, c'est vraiment penser à la manière du monde, parce que bien sûr, Dieu peut tout, rien n'est impossible à Dieu, il peut être et il est puissant, mais il aime toujours se présenter comme le pauvre. C'est ainsi que notre grand Dieu ne s'est pas incarné dans le palais d'Hérode, ou dans je ne sais quelle autre grande et belle maison, mais dans la pauvreté de la crèche de Bethléem. Hein, il y a vraiment toujours en Dieu hein, ce souci eh bien, de manifester qu'il est pauvre. Pourquoi ? Parce que sa véritable richesse, elle n'est pas dans les choses matérielles. C'est nous qui pensons que la richesse, ça veut dire la vie matérielle. Mais la véritable richesse, c'est la pauvreté d'une âme qui se reçoit de Dieu. De même, le prophète Élie. Lorsque le prophète Élie, on lui annonce que Dieu va passer, il se trouve lui aussi dans une grotte. Et alors, il y a d'abord le grand ouragan, mais Dieu n'était pas dans l'ouragan. Et puis, il y a le grand tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et ce n'est qu'à la fin qu'il y a le murmure d'une brise légère. Et bien voilà que Dieu était dans le murmure d'une brise légère. Lorsque Dieu se communique, ce n'est pas dans la grandiloquence, ce n'est pas dans tout l'appareil de sa gloire, cela est réservé à la fin des temps, lors du retour du Christ, mais c'est toujours avec cette humilité de Dieu. Vous savez, dans l'Évangile, on nous dit « Jésus était doux et humble de cœur ». Eh bien voilà comment aussi la Vierge Immaculée, qui est sa mère, se présente à Bernadette, pleine de douceur. C'est la Vierge au sourire. Il y a dans les premières apparitions des salutations, les deux jeunes demoiselles s'apprivoisent l'une l'autre, et tout a commencé par le signe de la croix. C'est la pauvreté par excellence. Voilà que notre grand Dieu, lui qui est le Verbe de Dieu, la parole, eh bien, est cloué sur le bois de la croix. Voilà qu'il n'a rien d'autre à dire que « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Et c'est ainsi qu'il rend l'esprit. Au point de vue du monde, c'est un échec total. Et on dirait aujourd'hui, puisque la communication a pris le pas sur la réalité, ça serait un échec de communication criant que Dieu soit ainsi réduit au silence par la mort et ainsi humilié sur le bois de la croix. Eh bien voilà déjà, si vous voulez, le cheminement du carême, mais également la tonalité fondamentale des apparitions de Lourdes. Après, le 18 février, du 24 au 28 février, du moins dans les paroles, voilà que la Vierge se fait bien plus grave. Il n'y a plus, je vous l'avais dit, les illuminations de visage, les grands sourires, la grâce de Bernadette qui répond aux salutations de la Dame. Là, le visage de Bernadette se fait bien plus grave. Et lorsqu'on interrogera Bernadette, l'abbé Penn lui demandera, eh bien, c'est que la Dame est tellement triste que cette tristesse est communicative vis-à-vis de Bernadette. À la grotte, il n'y a que Bernadette qui voit la Dame. En revanche, les témoins, ils viennent voir Bernadette. Et ils voient comment les états d'âme de cette jeune demoiselle qui lui apparaît sont comme reflétés dans le visage et les attitudes de Bernadette. Voilà que la Dame, là, elle prend le grand tournant du carême, hein, et elle va dire à Bernadette, il faut prier Dieu pour la conversion des pécheurs. Cette conversion des pécheurs est quelque chose de très important. C'est exactement ce que Jean-Baptiste faisait sur les bords du Jourdain. Hein, il appelait les hommes à la conversion. Il faut revenir vers Dieu parce que eh bien, nous, même chaque jour, eh bien, nous nous éloignons de Dieu, nous nous en détournons pour nous mettre en avant, pour nous choisir plutôt que le bon Dieu, de nous choisir plutôt que le prochain à servir et à aimer, etc. Bien, voilà que la Vierge, hein, qui est sans péché, hein, dira à Bernadette avec gravité, « Priez Dieu pour la conversion des pécheurs. » Et Bernadette va n'avoir de cesse que de prier pour la conversion des pécheurs. Et cette prière, elle aura aussi une direction, c'est une tradition bigourdane, mais elle aura également, elle ira prier jusqu'à la conversion des pécheurs sans jamais oublier les âmes du purgatoire. Je dis c'est une tradition bigourdane parce que on rapporte que le chapelet en Bigorre n'était pas composé de 5 dizaines, mais de 6 dizaines, parce qu'on rajoutait toujours 1 dizaine pour les âmes du purgatoire. D'ailleurs, Louise, la mère de Bernadette, au soir du 11 février, alors qu'elle a entendu, en enlevant les brindilles dans les cheveux de sa fille aînée et de Toinette, qui a vendu le morceau, elle a entendu parler de cette apparition de la Dame. Elle pense que sa fille maintenant devient folle, en plus d'être asthmatique, en plus d'avoir une très mauvaise santé. Et elle va le soir monter chez les cousins Sajous pour dire à la cousine qu'elle pense que ça serait peut-être une âme du purgatoire qui apparaîtrait à Bernadette. C'est-à-dire, on n'oublie pas, dans cette prière de la conversion des pécheurs, et bien également d'associer les âmes du purgatoire. Ensuite, la Dame va lui demander d'embrasser la terre. Nous avons vu que la terre de Massabielle, c'était la porcherie municipale. Hein, donc, embrasser la terre, pour les témoins, peut-être humiliant, mais pour Bernadette, il n'est pas question d'humiliation, parce que pour elle, elle ne fait que ça pour les pécheurs. Lorsque l'abbé Penn, le 25 février, va convoquer Bernadette, parce que sa sœur Jacquette assiste aux apparitions, le curé Peyramal a interdit à tout prêtre de se rendre à la grotte par devoir de réserve, eh bien, donc, Jacquette fait venir Bernadette et elle a un entretien avec l'abbé Penn et l'abbé Penn lui demande mais c'est quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller se maculer le visage debout, d'embrasser cette terre où il y a des eaux, où il y a un peu de sang, c'est humide, c'est dégoûtant. Et elle demandait, c'est également une très drôle d'idée de cette dame de te faire manger de l'herbe. Mais Bernadette, elle ne va pas répondre à la grandiloquence, comme elle pourra répondre un peu plus tard dans sa fameuse réponse « On mange bien de la salade », non. Elle va répondre avec beaucoup de gravité, une très grande humilité qui va édifier l'abbé Penn pour les pécheurs. C'est-à-dire que quand la dame lui dit « Il faut prier Dieu pour la conversion des pécheurs », Bernadette, elle n'a de cesse maintenant eh bien, de s'associer à la prière de la Vierge pour les pécheurs. Je précise également que dans le « Je vous salue Marie », cette prière, l'Ave Maria que nous récitons, nous sommes le rare pays où nous disons, non pas qu'on ne prie pas la Vierge pour les pécheurs, priez pour nous, pauvres pécheurs. Et c'est intéressant de voir combien dans nos traditions françaises, nous avons ajouté la pauvreté à notre péché. Oui, notre pauvreté, c'est notre péché, bien sûr, hein, que nous déposons vers Dieu, qui est le Père de toute miséricorde, afin qu'il nous pardonne. Bien voilà que la Vierge Immaculée, elle va ouvrir un chemin pour manifester la conversion. Il faut déjà, même en ce temps de carême, eh bien, s'associer à la prière de la Dame, à la prière de Bernadette, plus largement à la prière de toute l'Église, pour la conversion des pécheurs et des pécheurs que nous sommes. Ce n'est pas parce qu'on prie pour la conversion des pécheurs que nous serions, comme la Vierge Immaculée, sans péché. Bien au contraire, mais il y a une solidarité déjà dans le péché, nous la constatons, mais également une solidarité dans ce chemin de salut que nous ouvre la Dame. La Dame va également dire à Bernadette qu'il faut faire pénitence. Cette pénitence, c'est une fois qu'on s'est converti, une fois qu'on a le désir sincère de revenir vers Dieu, mais on a un seul désir, c'est de réparer le mal que l'on a pu faire. C'est également ce que nous recevons un peu comme mission dans la pénitence après la confession. Alors, la confession, nous accusons nos fautes. La confession, il ne s'agit pas d'un procès de béatification où il faudrait contrebalancer les péchés que nous avons faits par les bonnes qualités et ce qu'on aurait pu faire de bien. Ça ne regarde pas le prêtre qui entend les confessions. On est là pour vider son sac, si l'on peut dire, pour dire tout ce que nous avons sur la conscience, ce dont nous accuse notre cœur dans ses étroitesses et ses lâchetés. Et ensuite, nous recevons l'absolution par l'aveu sincère de nos fautes, avec ce désir de ne pas recommencer et de faire pénitence. Et le prêtre va nous donner une pénitence, qui peut être parfois quelques broutilles, de réciter quelques et quelques prières. Mais la prière est une arme très importante. Le Seigneur nous le laisse entendre. Nous serons surpris au ciel de mesurer la portée, la puissance, la force de la prière. Donc la dame lui dit de faire pénitence. Alors Bernadette ne va pas se tourner vers la foule pour dire pénitence, non, c'est juste quelques témoins qui voient Bernadette avancer à genoux dans la grotte, embrasser la terre, aller à la source boire, se laver. La source devient quand même de plus en plus propre, ce n'est pas comme au 25 février où son visage est maculé de boue, mais vraiment dans ce grand tournant, ils l'entendent répéter pénitence, pénitence, pénitence. Et la dame lui a demandé également de manger de l'herbe qui est là. C'est l'image de ces herbes amères qui préparent la Pâque, parce que le carême, ce n'est pas seulement le désert pour le désert. C'est le carême qui va nous ouvrir à la suite du Seigneur, lors de la Passion, lors de sa mort, mais surtout de sa résurrection. Donc vous voyez, déjà dans ces herbes amères, on annonce que le temps de Pâques va également arriver, puisque dans la tradition juive, au soir de la Pâque, on mange l'agneau rôti. Nous accueillons l'agneau de Dieu qui vient enlever le péché du monde, et cela sera manifeste sur le bois de la croix. Et nous avons aussi à manger ces herbes amères pour hâter la venue du Seigneur, parce que le Seigneur va passer. À partir du 2 mars, nous sommes encore dans le temps du carême et nous y serons aussi lorsque la dame va faire sa grande déclaration du 25 mars. Voilà que la Sainte Vierge va dire cette phrase à Bernadette: « Allez dire au prêtre que l'on vienne ici en procession et que l'on y bâtisse une chapelle. » Je vais vous lire le prologue de la 13e apparition que j'ai écrit pour une retraite sacerdotale qui va venir, juste pour que nous rentrions vraiment dans ce que Bernadette a vécu ce jour-là, et surtout de comment nous sont arrivées les quelques bribes de cette phrase. Lorsque les premiers pèlerins et curieux descendent à la grotte, minuit vient de sonner. Voici les premières heures de ce mardi 2 mars 1858. Jusqu'à 7 heures, où les premières lueurs de ce jour accompagnent l'arrivée de Bernadette, 1650 personnes ont pris place dans la grotte, sur la pointe de l'île du Chalet, jusqu'au loin où la voyante est invisible. Dans la nuit noire, la prière prépare l'arrivée de Bernadette et avec elle, celle de la jeune demoiselle au rosaire. Malgré la foule qui l'entoure, Bernadette s'installe à la place qu'on lui réserve et près de laquelle on veut se tenir. Semblant ne voir personne, elle s'agenouille face à la niche dans laquelle Aquero lui apparaît. Le cierge béni des enfants de Marie dans la main gauche, le chapelet dans la main droite, Bernadette s'apprête à sa récitation. Avec le crucifix de son chapelet de dessous, rapporté par sa sœur Toinette du sanctuaire voisin de Bétharam, elle trace le signe de la croix. Bernadette est en prière, et la prière gagne cette foule nombreuse, aussi silencieuse que paisible. Si les témoignages de ce 2 mars ne nous rapportent rien de particulier durant l'extase de cette 13e apparition, c'est que son extraordinaire ne sort pas de l'ordinaire auquel Bernadette a habitué ceux qui, à la grotte, sont venus pour la voir. Habituellement, la jeune demoiselle lui apparaît pendant la récitation de son chapelet aux environs de la seconde dizaine. Là, son visage s'illumine. Son incandescente pâleur contraste alors avec le regard que ses grands yeux noirs portent vers l'apparition. L'éternité qu'elle contemple est manifeste. Ses yeux ne clignent plus et l'avancée de son chapelet, moins régulière, fait place à la contemplation. Celui-ci achevé, Bernadette se lève. Sous le regard de celle qui se tient sur l'églantier jaillissant de la niche rocheuse, la voilà qui cherche à accomplir les gestes de pénitence qu'elle lui a enseignés les jours précédents, embrasser la terre, manger l'herbe amère, boire à la source et s'y laver. Bernadette peine à les réaliser, tant la foule est nombreuse ce matin-là. Si tous ces gestes sont devenus rituels au cours des dernières apparitions, les langues se délient au sujet de la station que fit Bernadette sous la cavité intérieure de la grotte. En effet, au retour de la source, la jeune demoiselle est venue à la rencontre de Bernadette. Elle y est parvenue par l'ouverture intérieure de la niche rocheuse. Les voici donc face à face dans la grotte, lieu le plus intime de leur confidence. Bernadette rit, puis son visage se fait plus sérieux. Autour d'elle, on comprend qu'elle est en conversation avec sa jeune demoiselle. On scrute les lèvres de Bernadette, on y est comme suspendu, mais aucun son ne vient en trahir l'intimité. D'où la question que s'empressent de lui poser les dames de la paroisse faisant cercle autour de Bernadette. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Aquero est reparti dans la nuée lumineuse dont Bernadette contemple, nostalgique, les dernières lueurs. Mais déjà ses yeux saisissent le cercle des pieuses dames qui l'assaillent. D'instinct, elle comprend qu'elle ne pourra ouvrir une brèche, remonter la ravine, qu'en livrant une bribe de confidence. Anna dise ad prêtresse, conbenque aqui in processio, allez dire au prêtre que l'on vienne ici en procession. Voilà le prologue qui nous permet de bien voir une chose, c'est qu'il y a un grand décalage entre ce que les gens voient, eux voient Bernadette, ils ont bien vu qu'elle avançait dans la cavité au retour de la grotte, que Bernadette était face à quelqu'un, qu'elle parlait, bien qu'on n'entende pas les paroles, ça étonne toujours Bernadette quand on lui dit « mais vous n'avez pas entendu » parce que Bernadette a une voix assez forte, eh bien non, on n'entend pas. Lorsqu'elle est en conversation avec la dame, ce n'est que la dame. La dame, ce jour-là, ne lui a pas seulement dit d'aller à la rencontre des prêtres pour leur parler de la procession, mais également du pèlerinage. Et dans ce jour du 2 mars, Bernadette, sur le chemin du retour, va immédiatement aller à l'hospice, rencontrer l'abbé Paumian pour lui faire part du message. Alors celui-ci va écouter, mais celui-ci a été profondément déçu en interrogeant Bernadette la semaine précédente, en se rendant compte combien elle était ignorante, elle ne connaît rien, ne serait-ce même qu'au mystère de la Sainte Trinité. Je pense que le pauvre abbé Paumian serait bien étonné de voir aussi combien les chrétiens aujourd'hui sont ignorants à ce sujet comme sur tant d'autres. Et donc du coup, il écoute et puis il laisse entendre que ça ne le concerne pas. Et il est vrai que l'abbé Paumian est aumônier de l'hospice et que s'il faut aller le dire au prêtre, il lui dit « c'est à monsieur le curé ». Autant le 13 février, lors de la confession de Bernadette, il avait voulu jouer un peu les intermédiaires en demandant à Bernadette si elle acceptait qu'il en parle au curé de cette première apparition. Bernadette avait dit oui. Autant là, il allait se faire. Donc Bernadette, après avoir été voir l'abbé Paumian, puisqu'il faut aller dire au prêtre, eh bien elle va aller à la rencontre du curé. La jeune fille qui accompagnait Bernadette pour aller chez l'abbé Paumian, Pauline Cazot, décidera, elle, là, d'en rester là, parce qu'aller voir l'aumônier, c'est une chose, mais aller voir monsieur le curé, c'est tout autre chose. Bernadette va donc demander à tante Basile. Tante Basile accepte en disant qu'on va passer prendre tante Bernarde, l'aînée, l'héritière, parce que pour aller à la rencontre de monsieur le curé, eh bien, il faut être sûr de la compagnie. Lorsqu'elles vont arriver pour parler de la procession, elle ne se doute pas, les tantes et Bernadette, que monsieur le curé est comme déjà au courant. Pourquoi ? Parce que le cercle des jeunes dames de la paroisse, hein, qui étaient bien décidées à savoir ce qui s'était dit sous la cavité, lorsque Bernadette est partie à l'hospice, elles sont arrivées au presbytère. Et donc elles ont déjà parlé de la procession au presbytère. L'échange avec monsieur le curé et Bernadette va être haut en couleur. Bernadette, elle en sera même assez choquée et meurtrie. Et elle confondra ensuite tellement de choses qui s'est passé ce jour-là. La rencontre avec monsieur le curé est assez frontale. Il avait déjà été très agacé par ces pieuses dames surexcitées qui ont compris ce qu'elles ont voulu comprendre, que la Sainte Vierge, c'est comme ça qu'elles disent à monsieur le curé, la Sainte Vierge demande une procession pour jeudi. Pourquoi jeudi ? Parce que le jeudi d'après, Ça fera 15 jours que la dame apparaît à Bernadette, ça sera donc la dernière apparition, et à Lourdes, soit on pense qu'il va y avoir un grand miracle que tous vont voir, soit qu'il va y avoir un grand châtiment, et donc ces dames, elles ont compris ce qu'elles voulaient comprendre. La dame demande une procession à la grotte pour jeudi prochain, pour pouvoir, si vous voulez, empêcher le châtiment. Ben, c'est pas du tout ce que la dame a laissé entendre à Bernadette. Bernadette va être assez perturbée dans les réponses et les questions de monsieur le curé, surtout quand monsieur le curé lui dira « Tu veux une procession pour jeudi ?» Et Bernadette dira qu'elle ne se rappelle pas si c'est pour jeudi. Et non seulement les 2 kilomètres du chemin pour aller à la rencontre de l'abbé Paumian ont fait que Bernadette a pensé à la procession, mais elle a oublié la seconde demande qui est celle de la chapelle. Ce mot de « procession » est très important, j'ai eu l'occasion de vous le dire, parce que en patois, procession, eh bien, c'est cette procession liturgique, bien sûr, que l'on accomplit pour certaines fêtes, pour la fête Dieu, pour la fête patronale. C'est donc l'Église en marche, hein, avec le clergé, en différentes corporations. Et en patois, donc, c'est déjà ce sens-là, mais dans un sens plus lointain, qui dépend du contexte, c'est également le mot pèlerinage. Et voilà où je veux en venir, c'est que la dame, elle instaure à Lourdes, à partir du 2 mars, le pèlerinage. Un pèlerinage qui passe par des gestes bien simples, mais qui sont là pour manifester notre retour à Dieu et notre conversion. Je vous l'ai dit, on imaginerait toujours que lorsque le bon Dieu veut nous demander quelque chose, que ce vont être des choses extraordinairement difficiles à accomplir. Souvenez-vous, ce général assyrien, Naaman, qui vient voir le prophète Élie de mémoire pour lui demander d'être guéri, et Élie lui dit « Allez vous baigner cette fois dans le Jourdain ». Il est quelque peu vexé, bien qu'il va accomplir le geste en se disant « J'ai quand même moi aussi des fleuves dans mon pays, allez me baigner cette fois dans le Jourdain ». Et c'est pourtant ce qu'il va accomplir, et c'est ainsi qu'il va être délivré de sa maladie de peau, de sa lèpre. Et bien voilà, la Vierge, elle vient nous demander d'aller à la source, boire et nous laver, elle nous demande d'aller manger l'herbe, elle nous demande d'embrasser la terre, elle nous demande surtout d'embrasser cette intention de prière pour la conversion des pécheurs, c'est ce qu'elle attend de nous dans le pèlerinage à Lourdes. Cette phrase du 2 mars, que le sanctuaire de Lourdes méditera tout au long de cette année 2022, est importante. Bernadette est envoyée à la rencontre des prêtres parce que la dame, elle veut convoquer en ce lieu l'Église. La chapelle qu'elle demande et sur laquelle elle va tant insister les jours suivants, c'est véritablement l'image de l'Église, parce que le nom même du peuple de Dieu, ce que l'on appelle l'Église, Ecclesia en latin, c'est le bâtiment, si vous voulez, où les premiers chrétiens se sont réunis. Nous portons le nom du bâtiment dans lequel on se réunit. Quand la dame demande que soit bâtie une chapelle, eh bien, elle veut donc que l'Église puisse être réunie en ce lieu de Massabielle. Un lieu très difficile pour la construction d'une église, nous l'avons vu, et pourtant les églises et même les basiliques, puisque les souverains pontifes n'auront de cesse de manifester eh bien, la reconnaissance à la Vierge Immaculée pour ses apparitions en couronnant les différentes églises du titre de basilique, basilique de l'Immaculée Conception, en dessous basilique du Rosaire et même la basilique Saint-Pédis ou encore Sainte-Bernadette. Donc du coup, la dame veut vraiment que l'Église soit réunie. C'est également ce que dit le mot procession, hein, c'est vraiment l'Église en marche. Hein, lorsque nous faisons la procession au flambeau, le soir, à la suite de la Vierge Immaculée et avant elle de la croix du Seigneur, c'est vraiment l'Église en marche qui prie pour la conversion des pécheurs. Mais c'est également, plus largement, ce que la dame veut pour Lourdes, un lieu de pèlerinage. Vous savez, Abraham, Dieu lui dit « Va maintenant, quitte ton pays et pars ». Eh bien voilà que ce pèlerinage que la dame veut accomplir à Lourdes, c'est quitter un peu son confort, sa maison, ses habitudes, pour se remettre en chemin vers Dieu. Ce pèlerinage, c'est également toute l'image de notre vie. De même que le carême est le condensé de la vie chrétienne ici-bas, eh bien voilà que le pèlerinage, c'est également l'image de l'Église. Dans les nouvelles traductions du missel romain que nous utiliserons à la paroisse lorsque nous aurons enfin reçu ces missels, eh bien vous verrez qu'on entend à nouveau ce que le latin a toujours écrit, l'Église pérégrinante, c'est-à-dire l'Église en pèlerinage. Nous sommes de passage ici-bas, avons-nous coutume de dire, eh bien dans la tradition de l'Église, on dit que la vie ici-bas, c'est un pèlerinage. Vous savez que Jésus, Marie, Joseph, en pharisien accomplissait le pèlerinage pour aller à Jérusalem, et bien cette démarche est importante, et c'est ce que la dame veut que nous vivions. Cette phrase du 2 mars, « Allez dire aux prêtres que l'on vienne ici en procession et que l'on y bâtisse une chapelle », elle trouve un parallèle important avec l'une des premières phrases de la dame que nous avions vue la semaine dernière. « Voulez-vous avoir la grâce de venir ici ?»« Allez dire aux prêtres que l'on vienne ici », puis elle précise, « en procession ou en pèlerinage et que l'on y bâtisse une chapelle ». Donc déjà, elle veut nous convoquer sur ce lieu dont nous avons médité en ce mois de février, la symbolique des lieux. C'est vraiment le cochon, l'animal interdit, le fils prodigue qui garde ce troupeau de porcs qui est tombé dans la déchéance et qui déclare, rentrant en lui-même, comme nous précise si bien saint Luc, « je vais retourner chez mon père ». Eh bien voilà ce qu'est le pèlerinage de Lourdes, le retour vers Dieu, le retour à la source pour aller boire. Nous nous abreuvons de cette eau qui est l'image du Christ. Nous avons vu la semaine dernière en Moïse, combien Bernadette était comparable à Moïse qui, frappant le rocher, en fait jaillir de l'eau. Eh bien, voilà aussi que l'on doit venir s'abreuver. On doit donc bien toujours prier pour la conversion des pécheurs. Et René Laurentin a bien raison dans ses ouvrages de préciser que bien plus qu'une terre de miracles, Lourdes est avant tout une terre de conversion. Une conversion qui est vraiment prise dans son sens biblique le plus important, celui de la pénitence, et qui manifeste également une pauvreté. Une pauvreté qui est une tonalité spirituelle essentielle. Rappelez-vous la parabole du riche et du publicain, le riche qui est debout, qui n'en finit pas de louer Dieu parce qu'il n'est pas comme ce publicain là-bas qui est à genoux, qui n'ose pas lever la tête vers le bon Dieu, qui est un pécheur, moi je jeûne, moi je fais ci, moi je fais ça, et pourtant le Seigneur de louer l'attitude du publicain qui n'ose pas lever les yeux vers le Seigneur en lui disant « moi je suis un pauvre pécheur ». Bien voilà ce que le Seigneur attend. Il n'attend pas qu'on se conforte dans notre péché en se disant « je ne vaux rien », parce que si on se met à désespérer, on fait le jeu du démon. Non, Dieu attend de nous, et en ce temps du carême, eh bien qu'on reconnaisse combien on est pécheur, qu'on reconnaisse nos limites, qu'on reconnaisse nos lâchetés, notre orgueil, pour justement qu'il puisse venir en nous faire sa demeure. Enfin, lorsque la Sainte Vierge va dire le 25 mars « Je suis l'Immaculée Conception », cela a un rapport également avec la pauvreté. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsque la Vierge dit « donc je suis l'Immaculée », c'est-à-dire « je suis sans péché », et la Vierge qui est sans péché, elle vient au secours des pécheurs, c'est la raison pour laquelle elle instaure ce pèlerinage, cette conversion. Mais également, lorsqu'elle dit « je suis l'Immaculée Conception », dans un premier sens, la Sainte Vierge manifeste sa pauvreté, au sens où elle pourrait nous dire « je ne suis que ma conception », enfin ma conception, la conception que j'ai reçue de la vie dans le sein de ma mère, Sainte Anne. Je ne suis que ça. Pourquoi elle reconnaît sa pauvreté ? Parce que finalement, elle reconnaît qu'elle est bénéficiaire de cette grâce préventive de Dieu, cette miséricorde préventive de Dieu, qui l'a préservée du péché pour mettre au monde celui qui vient nous sauver du péché. Mais en mettant au monde ainsi le Christ, dans la grotte de Bethléem, cette fois, non plus dans la grotte de Nazareth, où elle a entendu l'Annonciation, le message de l'ange, eh bien lorsqu'elle va mettre au monde le Christ, notre Seigneur, elle met à la fois au monde sa tête et son corps. Pourquoi je précise cela ? Parce que dans l'ecclésiologie de Saint Paul, Saint Paul nous dit bien que nous sommes le corps du Christ, que nous sommes chacun des membres de son corps, mais que le Christ, lui, est la tête. En tant que prêtre, les prêtres participent au Christ tête. Ce n'est pas tel et tel abbé qui prononce les paroles de consécration, c'est bien le Christ qui parle à travers lui, ce n'est pas le corps de monsieur le curé, de son vicaire ou de je ne sais qui que nous mangeons lorsque nous recevons la communion, c'est bien le corps du Christ, parce que le prêtre, par son ministère, participe au Christ tête. Il est prêtre parce que le Christ est le seul grand prêtre. Et pourquoi je précise pas ? Parce que la Vierge Marie, donc, elle a mis au monde et le corps et la tête de notre Seigneur Jésus le Christ. Ça veut dire aussi qu'elle est profondément, intimement, même dans sa chair, concernée par l'Église. On a coutume de dire que la Sainte Vierge, c'est la Mère, notre Mère. Et vous remarquerez avec moi qu'on parle également de l'Église en disant notre Sainte Mère, l'Église, parce que c'est l'Église qui nous enfante dans les sacrements. Eh bien, il y a un rapport très étroit que la Sainte Vierge vient pointer du doigt. D'abord, elle reconnaît que dans sa conception, elle est pleinement bénéficiaire de cette miséricorde préventive de Dieu. Dieu a pris les devants pour la préserver du péché, non seulement pour qu'elle mette au monde le Fils dans l'ordre de la chair, mais également parce qu'au pied de la croix, et tout à Lourdes a commencé par le signe de la croix, eh bien, au pied de la croix, elle a reçu tous les membres de l'Église sous la protection de sa maternité. « Femme, dit le nouvel Adam à la nouvelle Ève, voici ton fils. » Et à partir de ce jour-là, le disciple bien-aimé prit Marie chez lui. C'est le grand mystère de l'Église. Lorsque la Vierge dit « Je suis l'Immaculée Conception », elle dit bien sûr qu'elle est sans péché, mais elle manifeste aussi à la fois que dans le mystère de sa conception, elle est cette pauvre, cette humble servante qui se tient devant Dieu parce que tout ce qu'elle a, elle a reçu de Dieu, mais également parce qu'elle manifeste cette vocation que lui a communiquée l'archange Gabriel, concevoir et enfanter. Elle conçoit et elle enfante le Verbe de Dieu dans l'ordre de la chair, mais elle doit également concevoir et enfanter dans l'ordre de la grâce l'ensemble de ses enfants qu'elle convoque à Lourdes pour vivre un pèlerinage, pour vivre le pèlerinage de Lourdes. Et qu'est-ce que c'est qu'être pèlerin de Lourdes? Eh bien, c'est mettre ses pas dans ceux de Bernadette, s'efforcer de cultiver ses vertus, sa simplicité, sa pauvreté, de pouvoir ainsi communier aux états d'âme de la belle dame. Lorsqu'on est à la grotte, eh bien, on ressent la grâce de la présence de la Vierge Marie. J'y insiste beaucoup sur ce point parce que si la Sainte Vierge dit à Bernadette de lui faire la grâce de venir ici pendant 15 jours, c'est pas pour que Bernadette se retrouve seule face aux roches de Massabielle. C'est bien parce que la dame est là. De même, si la dame nous invite à travers cette phrase du 2 mars, à aller en pèlerinage et à vivre cette conversion pendant ce temps du carême, eh bien c'est parce qu'aussi la Sainte Vierge est là pour nous conduire à son Fils.